Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, les pharmaciens prêts à ouvrir le dimanche pour vacciner. Mais attention, pas sans nouvelle indemnisation. On reviendra aussi sur cette primaire à gauche qui fait un bid, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Roland Garros a désormais une nouvelle patronne, Amélie Mauresmo.
Le PS et la gauche vont-ils disparaître? Ce sera une question qu'on posera Olivier Faure. Et puis, je vous l'ai dit, à 12h50, Notre-Dame, la querelle des anciens et des modernes.
Notre question du jour sur RTL.fr. Faut-il, comme le souhaite Anne Hidalgo, organiser une primaire de la gauche? Vous dites non, majoritairement, à 69%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Les quatre départements sont en vigilance orange.
Oui, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées pour pluie, inondation. Les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers pour crue. Encore beaucoup de pluie et de neige cet après-midi. Pluvieux également sur toute la façade ouest. Il y a encore des éclaircies sur les régions centrales avant l'arrivée des pluies, puis il neige à basse altitude sur les massifs de l'Est. Attention au fort risque d'avalanche sur les Alpes, mais ça reste beau près de la Méditerranée, le tout sous des températures stationnaires.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc ce 8 mai des pharmaciens. Ils se disent prêts à ouvrir le dimanche, comme le demande Olivier Véran, pour accélérer la vaccination. Mais attention, sous condition. Pierre-Olivier Vario préside le syndicat des pharmaciens d'officine.
Pour ceux qui peuvent le faire, parfait qu'il le fasse. À l'impossible, nul n'est tenu. Celui qui ne peut pas faire parce qu'il est au bout, il ne faut pas qu'il fasse plus que ce qu'il ne peut faire. Et on ne peut pas faire avec le simple coût qui a été donné de 5 euros de plus par injection. Ce n'est pas possible. Faire venir des adjoints, des préparateurs qui ont le droit de vacciner, alors que nous sommes rémunérés 5 euros de plus, c'est juste pas entendable. Pour vacciner plus, oui, il nous faut des doses. Pour l'instant, on n'a encore pas totalement les doses. On en a un peu plus parce qu'on avait anticipé la demande, donc on avait commandé un peu plus de doses. Mais moi, pour vous prendre mon exemple personnel, je passais à peu près 6 flacons par semaine. Là, on est passé à 20 flacons. Mais simplement, les 20, je vais les recevoir fin de cette semaine, début de semaine prochaine.
Pierre-Olivier Vario avec Sophie Jousselin pour RTL. Dans les hôpitaux, le plan blanc déjà en vigueur dans certains départements devrait être généralisé dans les tout prochains jours. C'est ce qu'a indiqué ce matin le ministre de la Santé. Pas question, pour l'instant en tout cas, d'envisager de nouvelles restrictions. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour à tous.
Ce plan blanc au niveau national, ça va suffire?
Alors, c'est le pari du gouvernement. Donc, préparer les hôpitaux à traverser une nouvelle tempête sans imposer de contraintes supplémentaires aux Français. Plan blanc, ça veut dire déprogrammer des opérations moins urgentes, transférer des malades pour soulager les services encombrés, jongler avec les plannings pour avoir plus de personnel à Noël, en espérant que la courbe finisse par s'inverser assez vite. Alors la hausse du nombre de cas en France est moins forte, c'est vrai. Mais on ne va pas tarder d'atteindre les 2000 hospitalisations par jour pour Covid. Et même quand le pic sera atteint, peut-être à la fin du mois, les services de réanimation vont encore se remplir pendant au moins 2 ou 3 semaines. Beaucoup de médecins auraient préféré des mesures plus contraignantes. Le conseil scientifique lui-même envisageait dimanche dernier la fermeture anticipée des écoles ou de limiter les grands rassemblements, les concerts. Il a remis un avis avant-hier au gouvernement qui, pour l'instant, le garde pour lui. Alors, le gouvernement attend peut-être quelques jours encore de voir comment les chiffres évoluent et si besoin, il brandira l'avis des scientifiques pour monter d'un cran dans les mesures.
Virginie Garin, merci à vous pour ces explications.
La présidentielle après 20 ans et l'idée d'Anne Hidalgo d'organiser une primaire de la gauche qui est loin de faire l'unanimité.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire ce matin. Sur RTL, Éric Coquerel évoquait une machine à perdre. Écoutez.
C'est notamment ce qui, par exemple, a été la machine à perdre pour le Parti Socialiste, qui, soi-disant, avait organisé une primaire toute la gauche en 2017. Monsieur Hamon élu, et dès le lendemain, Monsieur Valls et Monsieur De Rugy qui partent chez Macron, et les autres se mettent sur le côté. Les candidats ne sont pas des têtes de gondole. Les candidats, c'est des programmes, des contenus. Et aujourd'hui, à gauche, on constate que, par exemple, entre Madame Hidalgo, qui est encore très, très proche d'un héritage de François Hollande, qui ne l'a pas quitté d'ailleurs de la journée hier, et nous, y a des différences très profondes. Donc c'est impossible d'imaginer qu'on va avoir un candidat qui va représenter tout ça. C'est une machine à perdre.
Le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, il était ce matin l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire.
Bonjour.
On a clairement l'impression que cette primaire est mort-née.
Ah bah elle semble très mal engagée. Hein. Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo n'a jamais compté dessus. Yannick Jadot, c'est un nom catégorique. Un, l'écologiste n'a aucune envie de s'engager dans une nouvelle primaire. Deux, en 2017, il s'est effacé derrière le socialiste Benoît Hamon. Résultat, 6%, ça calme. Trois, au printemps, il a organisé une rencontre avec le reste de la gauche. L'initiative a fait long feu. deux. Le communiste Fabien Roussel n'est pas franchement partant. Il s'en tire par une pirouette en appelant Anne Hidalgo à se ranger derrière lui. Et enfin, Arnaud Montebourg, avant l'intervention d'Anne Hidalgo, il avait lui-même appelé à une candidature commune à gauche. Mais il le dit, une primaire entre la socialiste et lui n'aurait pas de sens. L'équipe d'Anne Hidalgo ne se décourage pas. Pour autant, en ce moment même, des représentants de la primaire populaire, un mouvement citoyen qui organisera un vote en janvier, sont en train de discuter avec cette équipe. C'est une amorce de quelque chose, mais c'est loin, très loin d'être suffisant.
Et on verra ce qu'en pense le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui sera avec nous dans quelques minutes. Merci à vous, Marie-Bénédicte Allaire. Emmanuel Macron lui tiendra tout à l'heure à 16h une conférence de presse pour évoquer les priorités de la PFUE. PFUE, c'est un mot qu'on va beaucoup, beaucoup entendre ces 6 prochains mois, Bénédicte Tassard.
PFUE, présidence française de l'Union européenne. Pendant 6 mois, à partir du 1er janvier prochain, la France prend donc cette présidence tournante. Avant nous, c'était les Lituaniens, ce sont encore les Lituaniens. Encore avant les Portugais, les Allemands, ça devait être les Britanniques, mais vous le savez, ils ne sont plus là. Donc, c'est notre tour de présider le Conseil de l'Union européenne. Cela veut dire que la France... Et donc Emmanuel Macron fixe l'ordre du jour des discussions. Il va afficher ses priorités, son agenda et décider par exemple de quels sujets doivent discuter les 27 ministres de la pêche lors de leur première rencontre de 2022. On connaît déjà un peu les priorités que devrait énoncer cet après-midi le président. La création d'un salaire minimum européen, la taxe carbone aux frontières de l'Europe, le dossier des migrants et puis faire avancer cette fameuse Europe de la défense. Emmanuel Macron, maître de l'agenda européen, mais attention, celui-ci peut voler en éclats avec l'actualité, avec un nouvel épisode sérieux de Covid, par exemple, un conflit armé en Ukraine ou autre. Prendre la PFUE à 4 mois de la présidentielle, c'est un exercice dangereux pour le président. C'est une manière de parler Europe pendant la campagne présidentielle, mais ça peut aussi se retourner contre lui.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, et parmi justement les questions qui seront sans doute posées tout à l'heure au président, celle du boycott diplomatique des JO de Pékin, Jean-Yves Le Drian a donné tout à l'heure une première piste.
Nous sommes pour qu'il y ait une position commune dont nous allons mesurer l'ensemble des enjeux lors de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères ou dans une réunion suivante, mais cette question-là doit être traitée en européen. Ce qui ne nous empêche pas, par ailleurs, d'avoir, à l'égard de la question des droits de l'homme en Chine, une position très exigeante.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au micro RTL d'Émilie Beaujard. On en vient à ce phénomène inquiétant. Les atteintes à la laïcité sont en hausse à l'école, plus 12% entre le mois de mars 2021 et le mois de mars 2020. Marie Guerrier, c'est au collège que se produisent le plus ce genre de faits.
Oui, 610 incidents remontés des établissements sur un trimestre, dont 200 au moment de l'hommage à Samuel Paty. Des comportements d'élèves ou de parents, avec une baisse dans les écoles primaires et une hausse en collège.
Le pire, c'est quand il y a de l'apologie du terrorisme. Et donc, dans ce cas-là, nous suivons vraiment jusqu'au bout, y compris avec les services de police, puisque nous avons désormais dans chaque département des comités de lutte contre la radicalisation. Ça peut être tout simplement des élèves qui veulent faire valoir des approches communautaristes, par exemple pour les repas, ou ne faisons pas droit à ce type de choses. Mais en plus, nous travaillons avec les familles pour que les choses rentrent dans l'ordre. Vous avez aussi des cas que l'on constate de personnes qui voudraient que les petites filles portent des voiles à l'école. Et évidemment, nous l'empêchons.
8% des lycéens ne condamnent pas l'assassinat de Samuel Paty selon un récent sondage.
Nous savons malheureusement qu'il y a dans notre société, comme chez nos élèves, une toute petite minorité, mais qui existe bel et bien. Chaque fois que ceci se manifeste d'une façon ou d'une autre, nous luttons contre cela. Et nous devons nous sentir forts parce que, évidemment, l'immense majorité des gens pensent que c'est extrêmement précieux d'être en République et en démocratie. Et nous nous appuyons sur cela pour, au quotidien, faire valoir les bons principes.
Et surtout, il ne faut pas se taire, dit Jean-Michel Blanquer. Il demande que tous les incidents soient signalés pour pouvoir réagir.
Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL.
Il n'y a finalement pas de revalorisation du point d'indice des fonctionnaires.
La décision a été actée ce matin. Le gouvernement explique vouloir se concentrer sur les plus bas salaires de la fonction publique. Pierre Ménès en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Le journaliste est entendu après le signalement d'une hôtesse d'accueil du Parc des Princes qu'il accuse de lui avoir touché le sein. Des faits qu'il nie. La jeune femme n'a pour l'instant pas déposé plainte. Et puis le match de Ligue Europe Europa Conférence prévue ce soir entre Tottenham et Rennes. J'avais un petit doute sur la compétition, mais c'est bien ça. N'aura pas lieu. Il est reporté à une date qui n'a pas encore été fixée en raison de plusieurs cas de Covid au sein du club anglais. 8 joueurs et 5 membres de l'encadrement ont été testés positifs. Et puis c'est sans doute la femme du jour, Amélie Mauresmo.
Et quelle femme,
ex numéro 1 mondial, qui prend donc la direction de Roland-Garros. Elle succède à Guy Forget, qui a remis cette semaine sa démission. Écoutez-la.
J'ai beaucoup de choses à apprendre. Évidemment, j'arrive aussi avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie et d'ambition pour le tournoi, mais beaucoup d'humilité. Il y a 4 tournois du Grand Chelem. On voudrait être déjà le préféré des joueurs et des joueuses. Sur le fait que je sois la première femme, oui, c'est une fierté. Il y a aussi, j'espère, des compétences et un savoir-faire que je vais apprendre au fur et à mesure et des choses à apporter. Donc oui, je suis très fière d'être la première femme directrice de Roland-Garros, c'est évident. Mais je crois aussi qu'il faut mettre en avant surtout pourquoi je suis là, autre que pour mon genre. J'aimerais qu'en fait, cette question-là, elle soit même plus... d'actualité, elle soit même plus posée. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on vise et qu'on aille vers quelque chose de plus égalitaire, juste sur les compétences.
Première déclaration de la nouvelle directrice donc de Roland-Garros, Amélie Mauresmo.
On va essayer de décoder l'intervention hier d'Anne Hidalgo dans le journal de TF1 qui souhaitait une primaire à gauche et puis poser peut-être cette question, est-ce que la gauche va disparaître ? À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Cette gauche fracturée, cette gauche qui aujourd'hui désespère beaucoup de nos concitoyens, doit se retrouver, se rassembler pour gouverner. Et la conséquence que j'en tire, c'est qu'il faut organiser une primaire de cette gauche.
C'était hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Anne Hidalgo appelait à l'organisation d'une primaire de la gauche, du PS à la France Insoumise, en passant par le Parti communiste et les Verts. Moins de 24 heures plus tard, tous ou presque ont dit non. Alors cette primaire est-elle mort-née ? La gauche peut-elle disparaître ? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Olivier Faure.
Bonjour.
Premier secrétaire du Parti Socialiste, merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Visiblement, Anne Hidalgo avait hier prévenu peu de monde. Est-ce qu'elle vous avait prévenu, vous, le premier secrétaire du PS ?
Absolument. On en avait parlé depuis plusieurs jours et elle a pris sa décision effectivement hier. Et bien avant de passer à TF1, elle avait prévenu nombre de personnes dont je faisais partie.
Et vous trouviez que c'était une bonne idée ?
Oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, le débat, il se passe où aujourd'hui ? Est-ce qu'on entend la gauche ? Non, on l'entend plus, parce qu'en fait, on entend l'extrême droite, Zemmour, Le Pen, on entend la droite, Pécresse ou Macron, mais la gauche, personne ne en parle plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, tout le monde la voit tellement fragmentée, tellement divisée, qu'elle en est devenue inaudible.
Donc c'est un moyen de vous faire entendre ?
Mais se faire entendre et se faire non seulement entendre, mais respecter et même, pourquoi pas, l'emporter. Aujourd'hui, en fait, vous avez Valérie Pécresse dont on dit qu'elle pourrait gagner l'élection présidentielle. Elle fait combien de points au premier tour ? Elle fait 20% dans le meilleur des sondages pour elle. Elle fait plus généralement entre 14 et 16. Bah, écoutez, vous pensez que toute la gauche réunie, elle fait pas 16 ou 20 ou
alors,
même 25 ?
Alors toute la gauche
25.
Réunie, elle fait 25 si on additionne avec le dernier sondage, mais qui va donc de Jean-Luc Mélenchon à Fabien Roussel en passant par tout
mais
le monde.
Surtout ce qu'il faut imaginer. Regardez Valérie Pécresse, elle était à 10 points dans les sondages. Elle est passée à 20 en une semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé simplement ?
Mais il y a ça ne s'improvise pas comme ça, Olivier Faure, non ?
Mais je ne parle pas d'improviser. Moi, je parle d'une primaire. Une primaire, c'est quoi ? C'est un moment où on se retrouve.
C'est François Hollande qui a parlé d'improvisation. Parce que celui qui a été le plus dur, paradoxalement, c'est François Hollande. Il a dit que ça ne se décidait pas comme ça. Et il a dit que pour faire une primaire, il fallait au moins que les gens aient une sorte de programme commun, ce qui n'était pas le cas. Donc le plus dur de tous les commentaires sur la primaire d'Anne Hidalgo, c'est François Hollande.
Ben, ça prouve qu'il a au moins un point commun avec Jean-Luc Mélenchon. Mais au-delà de ça, la vérité, c'est que les primaires qui ont déjà eu lieu, celles qui étaient les primaires, où François Hollande précisément l'a emporté. Il n'y avait absolument pas de programme commun négocié au préalable avec celles et ceux qui y ont participé. Il y a évidemment, c'est ce qu'a dit Anne Hidalgo hier, il faut que ce soit des gens qui soient prêts à gouverner ensemble. C'est-à-dire des gens qui sont prêts à passer
mais
des compromis.
Mais vous savez bien qu'entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, aujourd'hui, vous n'avez plus rien de commun. Entre Europe et Écologie, les Verts, la France Insoumise et le Parti Socialiste, il n'y a pas de programme commun possible.
Mais ça, Pascal Praud, ça vous ferait tellement plaisir de savoir que la gauche est morte et qu'il n'y a plus rien à dire nulle part.
Pardonnez-moi, Olivier Faure.
C'est votre point de vue. Moi,
pas un point de vue. Alors, franchement, vous avez beaucoup de différences, monsieur Faure.
Mais bien sûr qu'on a des différences. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas de différence entre aujourd'hui, il y a une primaire.
Il y a autant de différences entre la France Insoumise et le Parti Socialiste qu'entre Valérie Pécresse et Marine Le Pen, oui.
Et Éric Ciotti. pardon, mais enfin, je suis désolé de vous dire que Éric Ciotti propose un Guantanamo à la française. Bref, qu'on légalise la torture sur le sol français. Est-ce que Valérie Pécresse est d'accord avec ça? J'espère que non. Donc, est-ce qu'il y a des... Enfin, je ne crois pas que quiconque à gauche ait proposé un Guantanamo à la française. Ce qui, là, serait pour moi un point de non-retour, effectivement. Mais, en l'occurrence, je pense qu'il y a des possibilités pour s'accorder. Est-ce que vous pensez qu'entre ceux qui sont arrivés... Enfin, franchement, on a un type, là. Enfin, pardon, je manque de respect. On a un président de la République, depuis 5 ans, qui nous dit qu'il est en même temps la droite et la gauche. Et vous pensez que la gauche ne peut pas être d'accord avec la gauche?
Olivier Faure, juste, cette idée, cette idée, Anne Hidalgo l'a donc lancée hier, et on a déjà Jean-Luc Mélenchon qui a dit non, Yannick Jadot qui dit non, Fabien Roussel qui dit non. Ça va pas pouvoir le faire, de toute façon.
Ben, là aussi, je vous renvoie à un précédent presque immédiat. Moi, je me souviens qu'il y a 2 mois, Xavier Bertrand expliquait qu'il ne se soumettrait jamais à une primaire. Et puis, il y est venu. Parce qu'à un moment, il y a quelque chose qui s'impose à vous. C'est l'opinion publique. Les Français que nous retrouvons chaque jour sur les marchés, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous êtes sympa, mais enfin, pourquoi je voterais pour la gauche? Quelle que soit la formation politique, parce que de toute façon, vous ne serez pas au second tour. Moi, ce que je veux, c'est une offre qui permette d'accéder à quelque chose. Alors, et bien sûr, chacun gardera les gens qui sont identitairement associés à son étiquette politique. Mais moi, je ne fais pas de la politique simplement pour témoigner. Je ne fais pas de la politique simplement pour me dire que je suis content d'être le dernier des Mohicans dans une gauche qui serait dévastée. Non, je fais de la politique pour pouvoir appliquer des idées, faire en sorte que sur les questions qui sont celles du moment, le pouvoir d'achat, l'inflation repart, les dépenses contraintes sont en train d'exploser de manière exponentielle. Vous avez en fait des loyers qui ont explosé, qui ont augmenté de 20% en 5 ans.
Et c'est pour ça, évidemment, M. Faure, que vous voulez intervenir. Mais si vous me permettez, j'ai une dernière question à vous poser. J'ai une dernière question à vous poser. D'abord, je regrette, comme beaucoup, que la voix de la gauche républicaine ne soit pas assez présente dans ce pays, donc je ne suis pas d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. Mais moi, je vous propose une autre analyse. Est-ce qu'au fond, Anne Hidalgo, hier, n'a pas préparé sa sortie? Parce qu'elle sait bien que ces gauches sont irréconciliables. Donc, est-ce que c'est une manière pour elle de dire, voilà, j'aurais tenté de réunir les gauches, ça n'est pas possible, et comme ma candidature ne prend pas, je me retire?
Ah ben alors là, vous la connaissez mal. Elle n'est pas du genre à expliquer qu'elle va se retirer. Elle est prête à se retirer à une seule condition, c'est d'être battue dans un scrutin.
Mais à 3 ou 4%, le PS, convenait que ça peut être compliqué quand même. Même financièrement, en dessous de 5%, vous n'êtes pas remboursé. La question va se poser, Monsieur Faure.
Vous serez parmi les donateurs nombreux, vous serez là pour nous aider, donc il n'y a pas de problème.
Pour aider la gauche républicaine,
Oui.
Mais ne vous inquiétez pas pour nos finances.
Nous sommes en mesure de financer une campagne. Et ce que je vous dis, c'est qu'elle est déterminée, qu'elle est prête à aller jusqu'au bout, mais qu'elle a la lucidité de comprendre que la gauche fragmentée, ça ne peut pas marcher. Et ce qu'elle veut, c'est gouverner et non pas simplement témoigner. C'est ça la différence entre une gauche qui veut faire et une gauche qui est simplement dans l'incantation et qui se complaît dans l'opposition.
D'un mot, Olivier Faure, un certain nombre évoque une possible candidature de Christiane Taubira. Est-ce que ça, ce ne serait pas la solution, finalement? D'un mot.
Mais ce n'est pas moi qui vais vous le dire. Christiane Taubira, si elle est candidate, je me féliciterai qu'elle participe à cette primaire. Et ensuite, ceux qui décideront, ce seront celles et ceux qui se seront inscrits dans la primaire et qui viendront y voter. Et moi, je suis pour qu'à un moment donné, il y a un processus qui conduise à la désignation de quelqu'un, et Christiane Taubira fait partie des gens qui, effectivement, pourraient y participer et pourraient éventuellement l'emporter.
Merci Olivier Faure, c'était intéressant de vous écouter et d'échanger ensemble.
C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Mais bien sûr, et je retiens quand même que vous avez trouvé un point commun avec François Hollande et Jean-Luc Mélenchon, et que cette petite phrase peut-être sera commentée ces prochaines minutes. Merci Monsieur Faure.
C'est à vous de le dire. Merci. Au revoir.
Merci en tout cas, il est 12h51, on va parler de Notre-Dame de Paris. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Il y a beaucoup d'endroits où on peut expérimenter, pas dans Notre-Dame de Paris. On peut évoluer à la marge, mais plus trop dans Notre-Dame, parce que c'est un monument historique qu'on veut conserver comme tel. Et si on veut créer une nouvelle cathédrale, il y a des endroits où il y a eu de nouvelles cathédrales, où on peut faire de nouvelles choses. Il y a plein d'endroits, on n'est pas obligé.
Didier Rickner est l'un des signataires de cette tribune qui dénonce le projet de réaménagement de Notre-Dame de Paris. Une tribune intitulée « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut le détruire » et signée par une centaine de personnalités. La bataille des anciens contre les modernes, pourrait-on dire. Alors justement, peut-on allier modernité et histoire ? Notre-Dame peut-elle évoluer ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour Jean-Jacques Ayagon.
Bonjour.
Ancien ministre de la Culture, je le rappelle, merci d'être en direct avec nous. Vous n'avez pas signé cette tribune, ça veut dire quoi? Que vous approuvez ce projet?
Je n'approuve pas forcément le projet, mais je crois à la nécessité d'introduire dans les monuments historiques des œuvres de notre temps. Il ne faut pas que ce débat entre les anciens et les modernes tourne à la polémique. Le débat est nécessaire, mais le débat doit être joyeux et respectueux des points de vue de chacun. Vous savez, Notre-Dame est un monument qui n'a cessé d'évoluer. Il y a la cathédrale du XIIIe siècle qui a été profondément transformée au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle encore, qui a été vandalisée pendant la terreur révolutionnaire, ensuite au XIXe siècle, magistralement restauré et redécoré par Viollet-le-Duc, et qui a subi d'ailleurs au XXe siècle, ou qui a bénéficié au XXe siècle d'aménagements liturgiques contemporains, notamment à l'époque où le cardinal Lustiger était archevêque de Paris. Donc je comprends tout à fait qu'il faille d'un côté, naturellement, scrupuleusement respecter ce monument pour son identité patrimoniale, mais également, pourquoi pas, à la faveur des nouveaux aménagements liturgiques, introduire des œuvres de notre temps dans ce monument.
C'est entendu, monsieur Ayagon, mais on parle de la suppression des confessionnaux. Non. Donc, ce qui est quand même assez étrange de supprimer les confessionnaux déjà dans une église et à Notre-Dame.
Écoutez, il ne faut pas oublier que les cathédrales, comme d'ailleurs les églises, depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui a transféré aux communes la propriété des églises et à l'État la propriété des cathédrales, que ces édifices, qui sont très souvent des monuments historiques, donc des lieux de la mémoire et de la mémoire partagée, sont également des bâtiments qui sont affectés au culte, mais c'est quand même in fine le clergé qui est le meilleur juge en la matière, qui est meilleur juge que vous et que moi en matière d'aménagement liturgique. Je ne sais pas si vous allez vous confesser si souvent.
Je le fais à l'antenne, moi, précisément, généralement avec les auditeurs. Mais c'est, je pense que les catholiques se confessent dans les églises, oui.
Écoutez, mais c'est le clergé ce sont les prêtres qui confessent, et donc c'est à eux à évaluer de quelle façon et dans quelle disposition mobilière et immobilière confesser. Mais si ces confessionnaux, en effet, ont un caractère historique, on peut très bien imaginer, on doit même souhaiter qu'ils demeurent un élément du cadre décoratif de cette église, comme d'autres, et que le clergé confesse éventuellement d'autres façons. Je pense d'ailleurs que le clergé ne se sert plus que très marginalement des confessionnaux pour pratiquer la confession.
On parle aussi de messages bibliques projetés sur les murs dans différentes langues. Le quotidien britannique, le Daily Telegraph, dénonçait cette semaine un Disneyland politiquement correct. C'est compliqué quand même de faire une limite, j'allais dire, entre le patrimoine, cette cathédrale et l'aspect touristique, parce qu'il y a un enjeu aussi.
Écoutez, la cathédrale est, je vous le rappelle et je le redis, à la fois un monument historique qu'il faut rétablir d'ailleurs, et ça a été la grande conclusion des débats qui ont suivi l'incendie de Notre-Dame, qu'il faut rétablir dans sa vérité historique aussi largement que possible pour l'extérieur de la cathédrale, mais également pour l'intérieur, mais en se souvenant qu'il y a eu sans cesse des modifications, des aménagements liturgiques. Je vous disais, à l'époque où le cardinal Lustiger était archevêque de Paris, il a procédé à la commande d'un nouvel autel qui a été réalisé par deux sculpteurs qui s'appellent Sébastien et Baptiste Touré. Il a commandé à Marc Couturier une grande croix en bois doré qui est installée dans le fond du chœur et qui d'ailleurs a résisté à l'incendie. Le monument n'est pas un objet patrimonial mort, immuable.
Il doit
vivre naturellement, et je crois qu'on ne peut pas totalement exclure le clergé des débats au sujet des aménagements liturgiques.
Bien sûr, c'est au clergé effectivement d'avoir peut-être le dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Ayagon.
Merci.
Et c'était un plaisir de vous écouter à 12h59. On va rappeler les titres à 13h et puis les auditeurs. On aura beaucoup évidemment de discussions, notamment sur cette gauche qui nous inquiète, parce que c'est important que la gauche soit présente, bien sûr, dans le débat politique, la gauche républicaine, les atteintes à la laïcité, on en parlera. À tout de suite.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.